Soyez les bienvenus sur Inter, 7h30. Et le journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'était soit le départ, soit l'escalade. Joe Biden à l'offensive pour défendre ses choix après le retrait précipité de l'armée américaine en Afghanistan. Discours hier soir à la Maison Blanche. Emmanuel Macron à Marseille pour 3 jours avec dans ses valises un plan d'urgence pour la ville. Alors que Jean Castex lui fait sa rentrée sociale aujourd'hui, les syndicats sont reçus à Matignon. On va parler retraite et assurance chômage. Au sommaire aussi, le procès d'un des plus gros narcotrafiquants français et le Quai d'Orsay en Seine-Saint-Denis. Les affaires étrangères veulent diversifier leur recrutement.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui la professeure des écoles, Peggy Kilhofer, et l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter. Ils publient ensemble l'abécédaire républicain aux éditions Fayard. Il a attendu 24 heures après le départ des dernières troupes, Alexis, pour défendre ses choix.
Oui, c'est un Joe Biden ferme, voire vindicatif, qui s'est exprimé hier soir à la Maison Blanche au lendemain du retrait américain d'Afghanistan. Ces derniers jours, les difficiles images de Kaboul, parfois humiliantes pour l'Amérique, ont fragilisé le président des États-Unis. Alors Biden riposte et veut tourner la page, Loïc Loury.
That was the choice.
Le départ plutôt que l'escalade, a dit Joe Biden. Le président américain a justifié une fois encore le retrait américain d'Afghanistan après 20 ans de guerre. La décision laisse-t-il entendre d'un chef de guerre responsable. Je n'allais pas prolonger cette guerre éternelle et je n'allais pas prolonger le retrait éternel. C'était la bonne décision, la décision sage, la meilleure décision pour l'Amérique. Un Joe Biden, le ton ferme, martial, qui après 2 semaines de chaos à l'aéroport Hamid Karzai, se félicite malgré tout de l'évacuation de plus de 120 000 personnes. Le succès extraordinaire de cette mission a été rendu possible par la compétence incroyable, la bravoure, le courage désintéressé de notre armée, de nos diplomates, de nos renseignements. Aucune nation n'a jamais organisé une telle mission dans l'histoire. Le président, affaibli, tente de reprendre la main sur sa communication en espérant que son message résonnera dans l'opinion américaine, lassée de cette guerre, mais choqué par des images qui depuis le 15 août ont fait le tour du monde. Et Joe Biden a beau ne pas avoir envahi l'Afghanistan ni négocié le retrait de ses troupes avec les talibans, il restera comme le président de ce départ, quoi qu'il en dise, raté. New York, Loïc Loury, France Inter.
Il resterait tout de même ce matin entre 100 et 200 Américains toujours bloqués à Kaboul. Pour les autres, ceux qui ont pu rentrer aux États-Unis, Washington prévoit 10 millions de dollars de fonds d'urgence pour aider ces rapatriés à subvenir à leurs besoins essentiels le temps qu'ils s'acclimatent à leur nouvelle vie. Des écoles envahies par les rats et dont les toits s'effondrent. 2 lignes de métro seulement pour 900 000 habitants. Des règlements de compte en série cet été. C'est peu dire que les chantiers sont nombreux à Marseille. Emmanuel Macron y est donc attendu cet après-midi pour une longue visite de 3 jours. Jamais le président n'a passé autant de temps en déplacement officiel dans une seule ville. 7 ministres à ses côtés. À la clé, le lancement d'un vaste plan d'urgence du jamais vu, promet l'Élysée. Sur place, les attentes sont fortes. Rien que pour rénover les écoles marseillaises, il faut au moins 1 milliard d'euros, selon le maire PS Benoît Payan. Benoît Payan qui accueillera le chef de l'État cet après-midi donc à l'hôtel de ville. Il partira ensuite pour le commissariat des quartiers nord.
Et pendant ce temps, il est 7h33, le Premier ministre, lui, va voir défiler syndicats et patronats dans son bureau.
Jean Castex les reçoit en tête à tête jusqu'à vendredi pour tâter le terrain sur les réformes plus ou moins dans les tuyaux. À commencer par la plus explosive d'entre elles, Maxime Debs, les retraites bien sûr.
On s'attend du côté de Matignon à des échanges sportifs confirmés par le président de la CFE-CGC, François Omeril.
Effectivement, ça risque d'être un peu sportif dans la mesure où on serait dans un dialogue de sourds.
Les sujets à l'agenda, nombreux, dit-il, on les connaît, on les a potassés tout l'été.
La question de l'assurance chômage, sur la question du plan de relance, eh bien, on a des choses à défendre, on a des points de vue à faire valoir.
Et des positions très nettes à rappeler, des lignes rouges à ne pas dépasser, au premier rang desquelles les retraites qui seront bien à l'ordre du jour, indique Matignon. Mais pourquoi donc, s'étonne Marie-Lise Léon, secrétaire générale adjointe à la CFDT.
Ça serait une pure folie de se lancer dans une nouvelle réforme qui serait en plus probablement juste un bricolage paramétrique, une augmentation de l'âge de la retraite, alors que c'est absolument pas le sujet du moment.
Et d'évoquer les questions relatives au télétravail, plus urgentes en cette rentrée, celle des salaires et des moyens aussi qu'il faut déployer afin de rendre attractifs les métiers en tension, Mais les retraites, ça vraiment, les syndicats ne comprendraient pas. Des voix au sein du gouvernement semblent même ces derniers jours aller doucement dans leur sens, estimant qu'en la période, les conditions ne sont pas réunies pour ouvrir un tel débat.
Et c'est la CFDT-FO qui ouvre le bal donc à Matignon en fin de journée. Maxime Deps, service économie et sociale de France Inter. Si vous vous chauffez au gaz comme 10 millions de Français, votre facture grimpe aujourd'hui. Près de 9% d'augmentation pour les tarifs réglementés. Cinquième mois consécutif de hausse. Et en ce 1er septembre, du changement aussi pour les fonctionnaires. Ils peuvent désormais télétravailler jusqu'à 3 jours par semaine si leur activité le permet, bien sûr. Eux ont encore 15 jours pour se mettre en règle. Les soignants doivent obligatoirement se faire vacciner d'ici le 15 septembre. En tout cas, au moins recevoir la première dose d'ici là. Le schéma vaccinal complet, ce sera pour le 15 octobre, dernier délai. Après, ils risquent la suspension de leur contrat et de leur salaire. Alors, où en est-on ce matin ? Olivia Cohen, l'optimisme domine plutôt dans les services hospitaliers.
Dans le service de Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, près de Paris, aucune appréhension.
95% des soignants du service ont eu au moins une dose et vont avoir la deuxième dose dans les semaines qui viennent.
Une situation représentative car à l'échelle nationale, le ministère de la Santé table sur 90% des personnels à l'hôpital et en EHPAD qui auront reçu au moins une première dose au 15 septembre. Zainab Rieh, déléguée générale de la Fédération hospitalière de France.
On ne devrait pas rencontrer de difficultés majeures. S'il y avait quelques difficultés, il conviendra de trouver des solutions pour maintenir ou réorganiser ce service. Mais compte tenu de cette dynamique positive des chiffres, je doute que ce soit quelque chose qui soit généralisé.
Malgré tout, certains soignants restent inquiets. Marie-Pierre, infirmière dans un hôpital parisien, l'assure. Dans certains services, on travaille tellement à flux tendu, une seule personne absente, c'est déjà trop.
On ne peut pas se permettre de se passer du peu de soignants qui ne sont toujours pas vaccinés. Aujourd'hui, on a déjà du mal à prendre nos jours de repos, à pouvoir avoir des conditions de travail normales. Donc si en plus on retire un ou deux soignants par équipe, c'est pas possible et ce sera pas viable.
Et cette infirmière redoute que le plan B pour remplacer les absences, ce soit de rappeler les soignants vaccinés sur leur jour de repos.
Témoignage recueilli par Olivia Cohen pour France Inter. Ailleurs dans le monde, le pass sanitaire s'étend encore à d'autres pays. Il entre en vigueur aujourd'hui au Québec, mais aussi pour certains lieux publics de Rio au Brésil. La mesure disparaît en revanche dans les bars et restaurants danois où elle était en vigueur depuis ce printemps. Pas de passe pour les enseignants. Enseignants français à l'entrée de leurs établissements, 870 000 professeurs font leur pré-rentrée ce matin, 24 heures avant leurs élèves. Les syndicats majoritaires critiquent un protocole sanitaire trop léger face au variant Delta. Le ministre de l'Éducation aura l'occasion de leur répondre ce matin. Jean-Michel Blanquer est l'invité de France Inter à 8h20. Vous pouvez aussi retrouver dès maintenant tous les détails pratiques de ce protocole scolaire sur franceinter.fr. Les policiers le considèrent comme l'un des 10 plus gros barons français de la drogue. Le procès de Moufid Bouchibi s'ouvre aujourd'hui à Bordeaux. Il a déjà été condamné en son absence en 2015 à 20 ans de prison. En son absence car il était en cavale à l'époque. Depuis, Bouchibi a été arrêté à Dubaï, puis extradé vers la France. La justice lui reproche notamment son rôle dans un gigantesque réseau d'importation de cannabis. Emmanuel Leclerc.
Au début des années 2010, Moufid Bouchibi était capable de lancer plusieurs convois sur les routes en Espagne et en France par semaine avec à chaque fois entre 3 et 7 tonnes de cannabis planquées dans des voitures de luxe, raconte l'un de ces enquêteurs qui a traqué Moufid Bouchibi durant des années. Une semaine, on lui a intercepté 3 go-fast, on pensait qu'il ne s'en remettrait pas financièrement. 6 mois plus tard, ça n'avait rien changé. Ce gars faisait comme les grandes surfaces, poursuit l'ex-enquêteur des stupes. Il payait à 30 jours ses fournisseurs ou plus. Ça lui permettait de lisser ses pertes. Il gérait ses équipes comme un commercial et il était très très fort. Ces dernières années, selon ses accusateurs, Bouchibi était passé aux cargaisons de cannabis dans des semi-remorques et puis les containers de cocaïne en lien avec les cartels sud-américains. Une fortune amassée et blanchie en grande partie dans l'immobilier. Des fantasmes de journalistes. Où sont les preuves ? L'avocat de Moufid Bouchibi, Thomas Bidnik, rejette en général les accusations contre son client, mais là, il estime d'abord que son procès à Bordeaux est totalement illégal, comme son expulsion de Dubaï.
La France, elle a pris la convention d'extradition, elle l'a déchirée. Si le mot forfaiture a un sens, il peut être utilisé ici. malheureusement.
De sources judiciaires, on estime que cela ne devrait en rien changer la tenue de ce procès de Moufid Bouchibi à Bordeaux, qui doit durer 2 jours.
Précision signée Emmanuel Leclerc.
7h40, encore trop parisien, trop élitiste, le Quai d'Orsay veut diversifier son recrutement.
Avec une académie diplomatique d'été, le ministère des Affaires étrangères organise cette première édition cette semaine à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. 150 lycéens et étudiants ont été sélectionnés sur dossier partout en France et ils découvrent jusqu'à vendredi les métiers de la diplomatie, Yann Gallic.
Sélectionnés parmi 700 candidats, ces jeunes, boursiers pour la plupart, enchaînent les conférences et les ateliers pratiques animés par des diplomates en activité. Samy, 20 ans, est étudiant en droit.
J'ai un ami qui m'en a parlé et je me suis dit, bon, ça a l'air intéressant. Alors j'ai postulé, j'ai été admis. Ça permet de voir des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés. Et puis pour la diplomatie, c'est aussi une richesse d'avoir une variété de profils parce que les questions que les diplomates ont à traiter sont des questions extrêmement variées.
Réunis dans un amphithéâtre, les apprentis diplomates sont confrontés à des situations de crise très concrètes. À travers des scénarios fictifs, ils apprennent même à négocier comme s'ils étaient au Conseil de sécurité de l'ONU.
Vous allez désigner un négociateur, vous allez être coaché par chacun d'entre nous.
L'objectif étant de susciter des vocations et de montrer que le métier de diplomate n'est pas réservé à une élite. Zeynab est étudiante en sciences politiques.
Je suis agréablement surprise parce qu'on apprend énormément de choses. On rencontre des intervenants qui ont des parcours passionnants, on découvre plein de choses avec eux et au fil d'une carrière, on peut aller dans différents endroits et c'est ça qui est bien parce que vraiment, on est vraiment à l'international, on ne reste pas fixé sur un seul pays, une seule culture. Ça donne vraiment envie.
Zeynab espère poursuivre dans cette voie, dit-elle, pour devenir un jour peut-être ambassadrice dans son pays d'origine, le Pakistan.
Yann Gallic pour cette première Académie diplomatique d'été du Quai d'Orsay. Puis si vous avez passé l'été dans la moitié nord, vous avez sans doute pesté plus d'une fois contre la météo, du ciel gris, beaucoup de pluie. Eh bien les experts confirment, selon Météo France, la France vient de vivre son été le plus humide et le moins chaud depuis 7 ans, avec par exemple 36% de pluie en plus à Lille par rapport à la normale. La faute à l'anticyclone des Açores qui nous a un peu oubliés apparemment cette année.
Alexis Morel, merci.